étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre que l'on guise.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B d'un roman de gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux, à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 50e édition de Roman de gare, j'ai le plaisir d'accueillir au téléphone le romancier caluirard Henri Carret, dont le dernier roman en date, Alumni l'ultime vendetta, est paru le 25 juillet 2025 aux éditions André Audemars. Henri, bonsoir.
Bonsoir Michel et bonsoir à tous les auditeurs de Radio B et merci infiniment de m'inviter pour cette 50e.
Mais c'est un plaisir. Vous préférez le mot auteur, écrivain ou romancier lorsqu'on vous présente?
Je trouve qu'il y a une certaine gradation dans l'emploi de ces trois termes. Je vais m'expliquer. Pour moi, un auteur est quelqu'un qui crée, pas forcément de la littérature. Il peut créer de la musique, toute forme d'art. Il peut aussi commettre des actes, l'auteur d'un meurtre, tout ça. Et ensuite, l'écrivain, certes, lui, c'est un auteur qui est plus spécialisé dans l'écriture, mais pareil, l'écrivain a une spécialité. Ça peut être un poète, un romancier, un nouvelliste, alors que le terme romancier s'applique plus à un roman. Étant donné que dans ma jeunesse, j'ai publié un recueil de poèmes, je pense que je suis aussi à l'aise dans la poésie que dans la prose, un peu comme Monsieur Jourdain, je préfère le terme écrivain.
Bien. Vous aviez quelle relation avec la lecture et l'écriture lors de l'enfance et l'adolescence ?
Alors, une relation très très forte. J'ai commencé à lire très tôt Pif Magazine.
Bien sûr.
De ça, hein, les aventures de Pif et Hercule avec El
Gadget.
Tous les personnages. Ouais, El Gadget, surtout, ouais. J'étais abonné à ce périodique et après j'ai évolué vers le journal de Tintin, vers des BD un peu plus adultes. Puis je suis rentré au collège et là j'ai découvert, grâce à des profs de français vraiment exceptionnels et remarquables, tous les classiques de la littérature française et contemporaine. Et au lycée, j'ai eu un professeur qui m'a fait découvrir Charles Baudelaire et tout l'univers de la poésie. Et j'avoue que ça a été une révélation. D'ailleurs, l'Effort du mal ne quitte pas ma table de chevet et je lis régulièrement. Et j'ai eu aussi l'occasion de découvrir toute la littérature de Camus, enfin toutes les œuvres de Camus. Et là aussi, ça a été un véritable coup de poing, l'étranger, la peste, le mythe de Sisyphe, voilà. Puis plus tard, je me suis mis à la littérature un peu policière, comme tout le monde, comme tous les auteurs de romans policiers. Je pense avoir lu les classiques, Agatha Christie, tous les Boileau, Narcejacques, les Simenon, enfin bon, bref, tout ça, plus les auteurs américains. Et j'avoue que j'en ai fait une cure pendant une bonne quinzaine d'années.
Vous avez une formation scientifique à la base, si je me trompe?
Oui, tout à fait, oui.
Quelle place avaient les cours de français?
Les cours de français, j'étais au lycée dans les années 84-85, donc il y avait encore les anciens bacs S, B, tout ça. Et le français occupait quand même une place importante dans l'enseignement. Je crois qu'on devait être à 4 ou 5 heures par semaine. C'était au même niveau que des cours de mathématiques ou de sciences physiques ou biologie. Donc une place très importante dans ma scolarité, puis dans ma vie, parce que c'était une époque où la rédaction des compositions, que ce soit en histoire géo ou dans d'autres matières, la maîtrise de la langue française était quand même assez exigeante et on était pénalisé si une phrase était mal construite ou si on faisait un certain nombre de fautes dans la composition, et indépendamment de la matière. Alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais en tout cas ça l'était à mon époque. Ça fait un peu vieux de dire ça d'ailleurs.
Quand avez-vous décidé de passer de la lecture à l'écriture ?
pendant les tourments de l'adolescence. J'ai eu un petit problème quand j'ai eu 14 ans, et je peux en parler, hein, j'ai eu un cancer à 14 ans, et mon espérance de vie était relativement réduite si je n'avais pas une intervention relativement rapide. Donc j'ai mis un peu tout mon mal-être et toute ma rage, tout mon désespoir, toute ma colère dans la poésie. Et puis, j'ai guéri, tant mieux. Et puis après, j'écrivais des petites choses comme ça, pour moi, sans prétention, sans rien. Jusqu'au jour où une amie m'a fait part d'une phrase qu'elle a entendue dans un supermarché. Et j'ai trouvé la phrase tellement belle et absurde à la fois que je me suis dit, mais ça ferait un excellent incipit de roman. Et c'est comme ça qu'est né Si Haute Nature.
Donc vous saviez déjà vers quel genre littéraire vous vouliez vous diriger ?
C'était une époque où je lisais beaucoup de livres à suspense, pas forcément thriller au sens meurtre, enquête et tout ça, mais c'était une période ouais, où je lisais beaucoup ce genre de livres et je me suis dit, bah, tiens, on va essayer de faire un peu une histoire à tiroir. Et puis voilà, c'est comme ça que sont nés les Si Haute Nature.
Votre premier roman, Si Haute Nature, est paru en 2012. Le ton est donné, il est déjà noir, pas forcément polar ni thriller.
Exactement, ouais, c'est plus... Alors après, j'ai appris plus tard qu'il existait une catégorie dans le polar qui s'appelait le polar social, qui s'attachait plus à l'étude psychologique de personnages qui expliquait la raison pour laquelle il glissait progressivement dans une sorte de quête de vengeance ou de choses comme ça. J'ai trouvé que ça correspondait bien à l'univers de Si Haute Nature et des autres romans qui l'ont suivi.
Vous vous êtes mis à la recherche d'un éditeur. Vous l'avez trouvé au Quai du Polar. Comment s'est passée la rencontre avec les éditions André Audemars ? Racontez-nous tout ça.
Effectivement, ça s'est passé au Quai du Polar. Monsieur Taforo était présent à un stand avec un auteur et j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai remis le manuscrit de Si Haute Nature et il m'a dit qu'il allait le lire et me faire un retour et celui-ci fut favorable, donc j'ai été très heureux quand il me l'a annoncé, qu'il acceptait de le publier.
La signature avec les éditions André Audemars a été rapide ou il a fallu les convaincre ?
Ah non, pas besoin de les convaincre, la lecture a suffi.
Les éditions Audemars vous ont forcément fait retravailler le premier roman ?
Ah oui, bien sûr. Comme me l'a dit Monsieur Taforo quand il l'a lu, il m'a dit, le roman, il est écrit en noir et blanc, on va essayer d'y mettre un peu de couleur. On l'a retravaillé ensemble et depuis, on a continué notre collaboration et les remarques et les suggestions d'amélioration de Monsieur Taforo ont toujours été pertinentes et judicieuses. Donc j'ai toujours tenu compte de ça pour améliorer tous les romans.
Lorsqu'on écrit un premier roman, l'envie d'en écrire un second était présent assez rapidement.
Je pense qu'il faut quand même une certaine période pour digérer la naissance de son roman et son envol auprès des lecteurs. Alors, je ne sais pas comment fonctionnent les autres écrivains, mais moi j'ai toujours plusieurs idées en tête qui sont un peu brouillonnes. Il faut ensuite leur laisser le temps d'arriver à maturité pour pouvoir commencer l'écriture d'un nouveau texte. Et là, il me faut en général un an après avoir terminé un roman pour songer à en écrire un autre.
On vous retrouve en 2017 dans le troisième volume de la collection Dora Suez Blog, présente avec une autrice et deux auteurs. Alors, en quoi consiste cette collection et qui avez-vous écrit ?
C'était une collection donc voulue par les éditions Dora Suarez et au regretté Ludovic Francioli, qui s'était engagé à publier un recueil de nouvelles à un rythme relativement régulier. Donc un recueil de nouvelles avec un thème différent à chaque fois et quatre auteurs. Donc j'ai eu le plaisir d'être choisi auprès d'autres auteurs pour écrire une nouvelle dans le recueil de nouvelles qui s'appelait « Au fil de l'eau », je crois.
Toujours en 2017, paraît votre second roman, Chambre noire, Nuit blanche, toujours aux éditions André Audemars. Le style Henri Carré s'affirme, suspense, surprise et humour sont au rendez-vous et il ne vous quitte plus désormais.
Humour, Chambre noire, nuit blanche est peut-être le roman le plus humoristique des trois, mais oui, enfin, j'aime bien les constructions un peu particulières dans chaque roman. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Mais oui, c'est un roman qui a lui aussi une construction particulière. C'est un roman double, en fait, puisqu'on a la vision d'un homme, puis la vision de son épouse sur la même histoire. Et c'est vrai que c'est un peu une critique assez de la société qui est dépeinte.
En 2021, paraît aux éditions André Audemars votre troisième roman « Comme un guerrier », un drame en cinq actes. Vous avez voulu l'écrire comme une tragédie, même si vous n'avez pas respecté les trois unités, un seul fait accompli, dans un seul lieu, à l'intérieur d'une même journée.
On est loin du théâtre classique dans « Comme un guerrier », on se rapproche plus du théâtre shakespearien. Je l'ai voulu comme tel, hein. Avec des références à Macbeth et à Othello, puisque c'est un roman qui m'est cher, puisque j'ai entamé son écriture à la suite du décès de mon papa. Alors le premier chapitre de ce roman est totalement vrai, c'est une partie de sa biographie et une partie aussi de mon autobiographie, puisque les faits que je relate se sont produits. Alors bien sûr, c'est un petit peu romancé, hein. Mais voilà. Mais mon papa était un résistant très tôt pendant la Deuxième Guerre mondiale et il a accompli des actes de résistance. Il s'est ensuite engagé dans la première armée française, stationné en Allemagne, et il est revenu avec des armes de là-bas. Et puis il m'a initié au maniement d'un Luger. Donc voilà, c'était un peu une manière de rendre hommage à ses faits d'armes et à tout ce qu'il a pu m'apprendre tout au long de ma vie.
Comme un guerrier, le témoignage d'un guerrier pas comme les autres, on rentre dans les profondeurs de l'âme humaine, on n'en ressort pas indemne.
Oui, on n'en ressort pas indemne. Oui. On n'en ressort pas indemne parce que on peut voir ce que certaines blessures peuvent engendrer. Alors bien sûr, j'exagère beaucoup le trait dans Comme un guerrier, hein. Il ne faut pas le prendre au premier degré, mais il y a le message, c'est que certaines blessures ne cicatrisent jamais. En fait.
Comme un guerrier est un drame en cinq actes. En faire une pièce de théâtre vous a effleuré l'esprit? C'est une idée qui vous a trotté dans la tête?
Alors, je n'ai aucun talent dans l'écriture pour le théâtre, mais pourquoi pas, si y a un metteur en scène qui est intéressé, je serais ravi que ce soit adapté, que ce soit au théâtre ou voire même au cinéma, puisque je pense qu'il est aussi très cinématographique.
On vous retrouve le 25 juillet 2025 avec l'apparition de votre nouveau roman Alumni, L'ultime vendetta. Pouvez-vous, sans trop en dévoiler, nous en raconter l'histoire?
Comme tous mes romans, d'ailleurs, c'est une histoire de vengeance qui a la particularité de faire intervenir un personnage dont on ne connaîtra jamais le sexe ou jamais le genre, hein, comme vous le préférez, et raconter à la deuxième personne par une personne qui intervient dans la vie du personnage. Le personnage principal a connu un traumatisme et il va essayer de se venger des différentes personnes qui ont pu lui causer, enfin, de la personne qui a causé ce traumatisme et ensuite, par extension, de toutes les personnes qui ont pu lui causer d'autres traumatismes dans la vie.
Alumni signifie élève en latin et est couramment utilisé aujourd'hui pour désigner les associations de diplômés. Si je dis le décor est planté, l'histoire met en scène plusieurs anciens élèves d'une école?
Oui, d'une grande école de commerce.
Vous poursuivez l'exploration de votre thème de prédilection, donc la vendetta, un mot italien qui signifie vengeance. C'est un thème de prédilection qui vous suit dans vos romans. Vos origines italiennes ont un rapport avec cette envie de traiter d'un tel sujet?
Ah non, absolument pas, non, mais oui, mais j'aime bien faire référence à mes origines italiennes dans mes romans. Dans Comme un guerrier, par exemple, il y a toute une partie de l'histoire qui se passe dans l'Italie du Sud, et c'est une manière pour moi de relater ce que j'ai connu pendant mes vacances, quand j'étais adolescent dans cette région de l'Italie.
Votre dernier roman est constitué de chapitres dont les numéros ne se suivent pas forcément. Oui. Hein, on peut le lire selon deux ordres différents. C'est votre côté informaticien et la condition si des langages de programmation?
Non, pas du tout. Enfin, comme je vous le disais, j'aime bien m'imposer des contraintes quand je m'attaque à l'écriture d'un nouveau texte. Là, ça faisait partie, enfin, Je m'étais imposé pas mal de contraintes pour Alumni et ça fait partie d'une des contraintes. Je voulais aussi choisir un livre qui se lisait soit dans l'ordre des pages, soit dans l'ordre inverse des chapitres, c'est-à-dire en le lisant du chapitre du plus grand jusqu'au plus petit.
Même s'il y a deux façons de lire le roman, on arrive forcément à la même fin. On peut le lire une deuxième fois sans que ce soit le même ?
Je pense que la deuxième lecture apporte quelque chose de différent. Quand on le lit en lisant les pages à la suite, on a énormément de flashbacks dans le passé, pléonasme. Alors que quand on le lit dans l'ordre chronologique inverse des chapitres, on a plus une histoire linéaire.
Le roman est écrit à la deuxième personne du singulier, une technique littéraire qui reste assez rare, comme si vous vouliez prendre à témoin le lecteur, comme si celui qui écrivait le roman, c'était celui qui le lisait.
Exactement, justement pour qu'on éprouve un petit peu de sympathie vis-à-vis de ce personnage à qui il arrive quand même pas mal de choses désagréables tout au long du roman.
Le personnage principal est attiré par New York, mais Lyon est sa ville. Vous êtes lyonnais et rendez parfois visite à de lointains cousins américains. Le tutoiement ne s'adresserait-il pas quelque part à vous ?
Bien sûr. Un peu comme Paul Auster, qui dans un de ses livres emploie le « tu » pour s'adresser à lui. Vous savez, je pense que tous les écrivains mettent un petit peu une part d'eux-mêmes dans chacun de leurs romans. Donc, il y a bien sûr une part de moi-même dans chacun des romans que j'ai pu écrire. Et que j'écrirai encore, j'espère.
Le personnage principal est loin d'être un nul en informatique, hein, rien ne lui résiste. Vous êtes informaticien, c'est un peu de vous que vous avez mis en lui à ce niveau-là ?
Alors, le personnage principal, au début, n'y connaît rien en informatique. Il est aidé par quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux que lui, notamment dans le piratage. Moi, j'ai qu'une expérience en programmation classique et le personnage principal, quant à lui, a plus une expérience dans le domaine du piratage, de l'intrusion, du vol de données, enfin bon, ce genre de choses. C'est un thème qui est d'actualité, donc j'ai voulu en parler pour alerter aussi un peu sur les risques de sécurité, notamment dans les ordinateurs personnels, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionnait et pour éventuellement interpeller le lecteur pour bien faire attention lorsqu'il utilise son ordinateur personnel.
Rien ne résiste informatiquement à votre personnage principal. Il se permet ce que vous n'oserez jamais faire.
Ah ben bien sûr, c'est le but de tout roman, ça, de transposer ce qu'on n'oserait jamais faire et de le faire réaliser par un personnage fictif. C'est une sorte de catharsis, enfin, voilà. Quoi.
C'est simple d'expliquer à vos lectrices et à vos lecteurs comment ça marche et comment on peut pirater sans les perdre.
Non, c'est un peu compliqué de vulgariser un petit peu le fonctionnement des ordinateurs, mais bon, j'ai essayé de le faire de la manière la plus simple et la plus didactique possible. Après.
Le personnage principal, après avoir été victime, devient le bourreau de ses agresseurs. La justice n'a que peu de place dans votre roman. Votre roman est aussi une critique de son dysfonctionnement.
Bon, si la justice a peu de place dans mes romans, c'est que je ne maîtrise pas tous les éléments du déroulement d'un procès d'assises ou d'une instruction, par exemple. Donc, pour ne pas écrire trop de bêtises, je préfère m'abstenir. C'est tout simplement pour ça. De même, pour les enquêtes policières, je ne fais pas intervenir d'inspecteurs ou de détectives ou de choses comme ça, parce que d'autres le font beaucoup mieux et avec beaucoup plus de talent que moi. Voilà.
Votre dernier roman est une critique sociale et économique de notre société et de ceux qui sortent des grandes écoles et ont le pouvoir, celui de l'argent. Vous dressez un portrait d'eux dur, mais terriblement réaliste.
Oui, c'est le monde dans lequel on vit. Hein. Je crois qu'on est en pleine conférence de Davos. Donc, l'argent régit le monde. On vit dans une société qui est de plus en plus égoïste, centrée sur elle-même. Je crois que Michel Houellebecq a parlé d'obsolescence des relations humaines. On en est là. Enfin, je trouve ça dommage. Bon, il y a une dizaine d'années, tout le monde avait un livre ouvert dans les transports en commun. Maintenant, tout le monde a les yeux rivés sur son téléphone portable. Et quand on sourit à quelqu'un, on a l'impression de l'agresser. Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, oui, c'est une critique de notre mode de fonctionnement. Et je pense que le monde irait beaucoup mieux si on s'aimait un peu plus les uns les autres.
Tout le long du roman, vous vous amusez à utiliser des mots rares et inusités comme « acconcher », »,« rudéral » ou « ubéreux ». Sans dictionnaire ou explication de texte, pas facile de vous suivre. Ces mots ont une réelle importance pour la compréhension du roman ?
Non, ça c'est mon petit plaisir personnel, parce que je trouve que la langue française est tellement belle. C'est une langue vivante, hein, donc elle évolue. Mais j'entends tellement des mots qui écorchent les oreilles tout au long de la journée, des anglicismes qui sont relativement fréquents dans le monde de l'informatique, ou même quand j'entends des adolescents ou des lycéens parler avec un langage que je ne comprends pas. Je me dis que ben, finalement, remettre à l'honneur des mots rares et inusités, c'est un peu rappeler que notre langue est belle et que même si elle est vivante et évolue comme toute langue vivante, il ne faut pas oublier que ses racines sont d'abord grecques et latines. Et voilà, simplement ça.
Vous partagez ce goût des mots inattendus avec Jacques Maurice. C'est tout sauf un hasard si c'est ce dernier qui a écrit votre préface. Jacques et vous, c'est une longue histoire.
Jacques et moi, c'est une très longue histoire. C'est un ami, c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Sa série sur les commissaires Sévrac est absolument phénoménale et rencontre le succès qu'elle mérite. Mais en plus d'être un écrivain de talent, c'est une remarquable personne qui a beaucoup d'humour, avec qui on partage des bons moments dans des salons et ailleurs, et qui a toujours une vision très juste du monde.
Pourquoi avoir inséré une préface ? Il n'y en avait pas dans vos précédents romans ?
J'ai demandé à Jacques l'an dernier dans le salon Livre en main d'Ambérieu que nous avons fait ensemble s'il acceptait éventuellement l'idée de préfacer Alumni, qui à la base dans mon esprit était mon dernier roman avant le prochain, et il a accepté par amitié de le préfacer tout simplement. Mais oui, parce que j'ai pas eu de... Enfin, je pense que les autres n'avaient pas besoin de préface, et celui-ci, j'avais envie qu'il y en ait une. Donc j'ai demandé à Jacques de le faire, et il a amicalement accepté.
On retrouve Tears for Fears, Clara Luciani et ACDC dans Alumni avec trois chansons où il est question de folie et d'enfer. La vengeance, c'est aussi une question de folie et d'enfer.
Oui. Bah, c'est pas la vengeance. Quand on la met en pratique, c'est quand même quelque chose de relativement fort et puissant. C'est pas quelque chose d'inné. Enfin, c'est pas naturel. Donc, il faut être un peu fou pour mettre en place une vengeance. Et quand on fait quelque chose de pas très recommandable, eh ben, on a tout de suite cette vision de l'enfer. Donc, oui, la vengeance conduit à l'enfer. Après, Clara Luciani, c'est plus un clin d'œil par rapport à une de ses chansons et à la manière dont le personnage principal décide d'accomplir son ultime vengeance.
Alumni, est-il le dernier roman qui traitera de la vengeance ? Vous avez fait le tour de la question ?
Pour ne rien vous cacher, non, je n'ai pas fait le tour de la question. Là, actuellement, dans tous mes romans, j'ai mis en avant la vengeance vue par l'auteur de la vengeance. Là, j'ai envie d'explorer le côté, entre guillemets, victime de la vengeance. Donc, qu'est-ce qui peut amener le comportement d'une personne à ce que d'autres personnes se vengent de ses comportements ? Enfin, je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications.
Si. Voilà. On vous retrouve dans les salons et les séances dédicaces comme tout bon romancier qui se respecte. Vous êtes à l'aise de l'autre côté de la table ?
Globalement, oui, même si parfois c'est un peu compliqué, mais oui, globalement. Parce que je suis accompagné de Jacques, je suis quand même un peu plus à l'aise. Il a quand même le don de détendre l'atmosphère pour que les choses se passent bien.
Il a ce qu'il faut pour détendre aussi, je crois.
Oui, il vient jamais les mains vides en salon, effectivement.
Bien, tout à l'heure nous évoquions les séances de dédicaces, il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces. Henri, quel est votre dernier coup de cœur littéraire ?
Les lettres de Camus à Maria Cazares.
Et pourquoi ?
Parce que ce sont des lettres d'amour magnifiques. Comment expliquer ça ? Il y a tout là-dedans. Il y a la passion, il y a le... Bon, c'est indescriptible ce que Camus a été capable d'écrire à une femme. Je ne sais pas. Moi, je crois que tous les hommes amoureux devraient lire ça et envoyer des messages enflammés aux femmes qu'ils aiment. Enfin, c'est... Il n'y a pas de mots pour décrire la force des sentiments que Camus a pu éprouver pour Maria Casas, et réciproquement d'ailleurs. Mais waouh, c'est vraiment le plus beau roman d'amour que j'ai lu. Ouais.
Ça vous a touché en tout cas.
Ouais. Ah oui, énormément.
Côté proposition de la quinzaine, notons le roman de Joe Nesbo, Le téléphone carnivore aux éditions Gallimard, le polar de Lisa Jackson, Celle qui a survécu aux éditions Mera, le roman de Guillaume Cyr, Les grandes patries étranges aux éditions Kalman Levy, le polar de Donna Leon, Mort en terre étrangère aux éditions Point, le roman de Fabienne H. Rossier, Joss, le livre de Didier Raoult, Homo Chaoticus aux éditions Michel Lafon, le roman de Cécile Desprairies, La propagandiste aux éditions Point, le polar de Doha, Rétière, aux éditions Gallimard, le roman de Leonardo Padura, Ouragan Tropico aux éditions Point, le thriller de Yann Manouk, Le Pouilleux Massacreur aux éditions La Manufacture de Livres, le roman de Stacey Halls, Le Refuge des Femmes Perdues aux éditions Michel Lafon, le thriller de Patrick S. Vaste, Béthune, Deux Minutes d'Arrêt aux éditions Tornada, le roman de Sylvie Lebihan, Là où s'arrête la Terre aux éditions Point, le thriller de Christophe Royer, L'Escadron Blanc, le roman de Gérard Coquet, Inish Boffin, La Triade Irlandaise aux éditions M+, le livre de Christian Côté-Aymar, L'Ange Curieux et autres nouvelles aux éditions Orage Lagune Express, le roman d'Aurore Brevet, Le Soleil brille toujours au-dessus des étoiles aux éditions Jouvence, le livre d'Adrien Party, Stoker et Dracula, La fabrique d'une légende aux éditions Les Nouvelles Éditions Actu SF, le roman de Mélissa D'Acosta, Fauve aux éditions Albin Michel, le livre d'un collectif sous la direction de Laurent Joly, Vichy, Histoire d'une dictature aux éditions Talendier, et le roman de Benjamin Dierstein, 14 juillet aux éditions Flammarion. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces. Henri, avez-vous des rencontres, séances de dédicaces dans la région proche à annoncer?
Alors, je serai présent à Livre en main le dimanche 8 février à Ambérieu. Et il y a aussi des interventions dans la librairie Trait d'Union, je crois, dans le courant du trimestre, mais la date n'a pas été encore fixée. La librairie Trait d'Union qui se situe à Lyon.
Du côté des séances dédicaces dans la région proche, le samedi 31 janvier 2026, à la salle des fêtes de Saint-Laurent-sur-Saône, la troisième édition de la Toile de la Plume de 10h à 19h, avec entre autres Robert Ferrari et José Marquez, à la librairie Zanini à Bourg-en-Bresse, Mélissa D'Acosta à 15h, à la bibliothèque de Neuville-sur-Ain, Philippe Debise à 9h30, et le dimanche 8 février 2026, à l'espace 1500 Ambérieu-en-Bugey, le festival Livre en main de 10h à 18h, avec Henri Carré et Jacques Maurice. Eh bien, Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Henri Carré, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
C'est moi qui vous remercie, Michel, et je remercie tous les auditeurs qui ont eu la patience de m'écouter jusqu'au bout.
Rappelons que votre dernier roman, Alumni, L'Ultime Vendetta, est paru le 25 juillet 2025 aux éditions André On Démarre. On peut se procurer dans toutes les bonnes librairies, sans oublier votre autre roman.
Oui, tout à fait, oui, oui.
On peut suivre votre actualité sur Internet via les réseaux sociaux et le site de votre maison d'édition, André Audemars, www.ao-edition.com.
C'est ça, même si je ne suis pas trop présent sur les réseaux sociaux.
Le prochain invité de Roman de Gare, le jeudi 12 février 2026, sera l'auteur Tassi Lunois. Vous avez deviné?
Oui, bah c'est Jacques.
Jacques Maurice. Il présentera son nouveau roman « L'ogre de la Part-Dieu » paru le 16 octobre 2025 aux éditions André Audemars. Bon, Jacques Maurice.
C'est un roman que je conseille parce que Jacques a changé de style et j'avoue qu'il s'en est vraiment sorti avec une maestria étonnante.
Henri, bonne chance pour la suite de vos aventures d'écrivain.
Merci Michel.
Bonne séance de dédicace et à bientôt sur Radio B.
À très bientôt Michel et encore merci de m'avoir invité.
Au revoir.
Au revoir.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.